Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, toute l'info avec Marguerite Lefèvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Europe 1, il est 8h.
Franchement, ça me stresse parce que encore un confinement, ça serait vraiment trop. Je suis censée vivre ma meilleure vie à Nice, mes études, etc. Et au final, je suis là, je reste cloîtrée chez moi et c'est pas possible, quoi.
Les Niçois sont suspendus aux annonces de leur préfet face à la flambée des contaminations. Un reconfinement est envisagé, sans doute le week-end. Les habitants seront fixés d'ici ce soir.
Israël fait de la vaccination un levier de son déconfinement. Le passeport vaccinal entre en vigueur aujourd'hui. Le vaccin sera obligatoire pour certaines activités.
À 4 mois des élections régionales, la droite refuse tout accord avec la République En Marche. Le discours est moins catégorique en région PACA. Le président Renaud Muselier se dit ouvert à certaines collaborations. Il sera donc votre invité, Thierry, à 8h15.
Et puis en tennis, c'est la finale de l'Open d'Australie tout à l'heure. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic vise un 9e titre à Melbourne.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nous sommes dimanche et pour les habitants de Nice, il s'agit peut-être du dernier dimanche de liberté, Marguerite.
Derniers instants en famille ou entre amis, dans le Vieux-Nice ou sur la promenade des Anglais. Selon nos informations, le préfet des Alpes-Maritimes pourrait annoncer cet après-midi un reconfinement le week-end pour bloquer la reprise épidémique. La mesure a été évoquée par le ministre de la Santé hier sur place. La situation est inquiétante. Le taux d'incidence est le plus élevé de France.
Et les consultations vont se poursuivre ce matin. Les habitants attendent donc impuissants ce nouveau tour de vis. Reportage à Nice de Marion Gauthier.
On tombe des nues parce qu'on a passé 8 jours dans le fin fond de la Normandie et on n'avait pas trop de réseau. Et là, on rentre.
Et le Covid l'écueille à la fin des vacances. Alain espère seulement que le virus ne va pas encore l'empêcher de donner ses cours de sport.
L'an dernier, j'ai quand même pas travaillé 3 mois sur l'année. Et s'il fallait encore rester à la maison, ça serait vraiment problématique.
Longue journée qui s'annonce à attendre que la décision tombe. La lassitude se lit dans les yeux maquillés mais éteints de Simonella, étudiante en BTS.
Franchement, ça me stresse parce que encore un confinement, ça serait vraiment trop. Je suis censée vivre ma meilleure vie à Nice, mes études, etc. Et au final, je suis là, je reste cloîtrée chez moi et c'est pas possible, quoi. C'est très très lourd à supporter et je pense qu'on est un peu tous en échec scolaire.
Pourtant, le reconfinement dur pourrait bien être la solution la plus efficace pour faire baisser les contaminations rapidement ici, estime Annabelle. De ses allers-retours Nice-Paris, cette commerciale relève un relâchement presque proportionnel à l'ensoleillement.
Les Niçois sont beaucoup plus cool, entre guillemets, par rapport aux règles. On verra plus facilement des magasins qui autorisent à rentrer sans masque, même si ça ne se dit pas. Hein.
Alors que de la musique s'élève de certaines fenêtres ouvertes sur des soirées, beaucoup de passants réclament plus de contrôle plutôt que de nouvelles restrictions. Nice, Marion Gauthier, Europe 1.
On attend donc ces mesures dans les Alpes-Maritimes. Lui avait réclamé un renforcement des restrictions aux autorités, mais il n'a pas été entendu. La semaine dernière, le gouvernement a maintenu le statu quo en Moselle.
Bonjour François Grosdidier.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Metz, hein, vous qui aviez en effet demandé le reconfinement. Comment est-ce que vous accueillez ces mesures à Nice ?
Écoutez, c'est tant mieux pour les Niçois si c'est nécessaire pour eux. Mais je suis très surpris parce que le ministre était venu vendredi dernier à Metz prendre connaissance de la situation et que le lendemain matin, 0 décision n'était prise et qu'on confirmait que toutes les décisions seraient nationales ou ne seraient pas. Donc si le gouvernement s'est rendu compte de son erreur et agit pour Nice mieux que pour Metz, j'en serais fort heureux pour les Niçois, mais je regrette ces incohérences dans l'organisation de l'État, tant sur les mesures sanitaires que même sur l'organisation de la vaccination.
Si le reconfinement est confirmé à Nice, est-ce que vous allez redemander vous-même des mesures de votre côté ?
Écoutez, on a loupé l'occasion d'anticiper d'une semaine les vacances scolaires. Pendant cette semaine, nous aurons eu une succession de fermetures des classes et d'écoles et même des lycées privés de plusieurs milliers d'élèves. Ça a été du temps perdu. Les mesures de couvre-feu à 18h généralisées paraissent moins bien appropriées que des actes plus forts, mais localisés, courts et correspondant exactement à la situation sanitaire pour ne pas arriver à ce que nous voulons tous éviter, qui est la saturation des urgences, nous imposant de choisir entre ceux qu'on sauve et ceux qu'on ne sauve pas. Donc il faut à tout prix les mesures adaptées pour éviter cette situation, ouais, en attendant que la majorité de la population soit vaccinée, nous permettant à ce moment-là l'immunité générale.
Merci, merci à vous François Grosdidier, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Metz en Moselle.
Hier en France, un peu plus de 22 000 cas de Covid ont été détectés. Plus de 3 300 patients sont hospitalisés actuellement dans les services de réanimation. Et certains peuvent recevoir la visite de leurs proches. C'est le cas au CHU de Bordeaux où s'est rendu Stéphane Place.
C'est un choix que revendique et assume le CHU de Bordeaux. Ici, au premier étage de l'hôpital où se trouve le service de réanimation, les familles des patients peuvent continuer à rendre visite à leurs proches, soignés pour un Covid et ayant besoin d'une prise en charge qui peut aller jusqu'à l'intubation. Des visites d'une heure sur rendez-vous. Le docteur Pierre Sioniac, médecin réanimateur.
En réa, l'apport des familles il est ultra important. Souvent, nous, on ne peut pas parler aux patients. Ils sont sédatés pour diverses raisons. Et c'est la famille, l'épouse, le mari, le frère, la sœur qui va nous faire le lien avec le patient. Là, on accepte même deux personnes de la même famille par jour.
Pouvoir se rendre dans ce service de réanimation médicale au chevet de son épouse contaminée par le Covid, c'est essentiel pour le mari de cette patiente.
Je lui parle. Bon, si elle m'entend, tant mieux. C'est primordial. Et on est informé surtout. Comment elle est, comment elle va. Mais je pense qu'ici, on a toutes les dispositions nécessaires. Bien sûr, nos blouses de protection. On a des masques, les becs de canard. On est casqué et masqué avec une visière. Et puis avec des gants, on peut toucher le malade.
Précaution maximale pour chacune de ces visites dans le service, grâce une fois de plus à l'attention et au dévouement de l'équipe hospitalière. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
À ce jour, plus de 2,5 millions de personnes ont reçu au moins leur première injection du vaccin. En matière de vaccination, le meilleur élève, c'est Israël. Près de la moitié de la population a déjà reçu une première injection.
Dans le pays, le vaccin sera désormais obligatoire pour toute une série d'activités. C'est le principe du passeport vaccinal qui entre en vigueur aujourd'hui. Ce passeport, c'est l'une des clés du déconfinement. Les précisions avec Gwendoline de Bonneau.
En Israël, le passeport vert permettra de retrouver une partie de la vie telle qu'elle était avant la pandémie. Grâce à ce document attestant que vous avez reçu les deux doses de vaccin, il sera possible d'aller à la salle de sport, à la piscine, à l'hôtel, mais aussi d'assister à des événements culturels et sportifs. Les centres commerciaux, les musées, les bibliothèques et les commerces ouvriront à nouveau dimanche, mais il n'y aura pas besoin de montrer son passeport vaccinal pour y accéder. Pas besoin de documents non plus pour aller prendre un café, mais il faudra montrer son passeport vert pour entrer dans les restaurants qui doivent ouvrir dans deux semaines. Les frontières du pays sont toujours fermées. Lorsqu'elles ouvriront, le passeport vaccinal permettra d'entrer en Israël sans passer par la quarantaine.
Gwendoline de Bonneau et le ministère israélien de la Santé affirment que le vaccin Pfizer est efficace à plus de 95% contre le Covid.
8h07, on passe à la politique et les régionales qui se préparent sur le terrain. Le scrutin aura lieu dans 4 mois maintenant.
Les Républicains ont affirmé cette semaine qu'ils ne signeraient aucun accord avec La République En Marche. Ça, c'est le discours officiel. Légèrement remis en cause vendredi par le président de la région PACA, Renaud Muselier, s'est dit ouvert à l'arrivée de personnalités à ses côtés. Bref, difficile d'y voir clair, Aurélie Arbemont.
Dire oui aux marcheurs, mais pas trop, et surtout sans énerver LR, voilà la position très en même temps de Renaud Muselier. Il ne nous referme pas la porte sur les doigts, constate un dirigeant macroniste. Un autre se réjouit. Il n'obéit pas totalement à Jacob. Christian Jacob, pourtant, a lu l'interview au Figaro avant sa parution et n'a rien vu de mal. C'est conforme à la ligne LR avec des mots « marseillais » assure la direction du parti. À droite, en effet, on explique qu'il est possible d'être sur les listes à condition de prendre l'étiquette LR ou d'hiver droite. Et qu'importe si Renaud Muselier, lui, n'exige absolument pas de renier le macronisme. Chacun voit dans ses propos ce qu'il a envie d'y voir et c'est sans doute l'objectif. On va avancer de notre côté et on verra si nos projets peuvent se rejoindre, glisse une marcheuse. Alors que la secrétaire d'État Sophie Cluzel vient d'être désignée chef de file dans la région, il faut dire que la situation en PACA est particulière avec le Rassemblement national en embuscade.
Aurélie Arbemont du service politique d'Europe 1.
Et on reviendra bien sûr sur ces régionales en PACA notamment dans un instant avec mon invité Renaud Muselier.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, confirme l'ouverture d'une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Elle s'exprime ce matin dans les colonnes du JDD. Elle maintient ses propos malgré la polémique qu'ils ont suscité. Et puis deux informations à l'étranger. En Birmanie, la répression de la junte a fait deux nouvelles victimes. Deux manifestants tués par balles alors qu'ils s'opposaient dans la rue au coup d'état militaire. L'ONU dénonce les violences. Et puis en Russie, les condamnations d'Alexei Navalny ont été confirmées hier. L'opposant risque toujours de purger sa peine dans un camp de travail.
Les Français de la zone B sont en vacances depuis hier. Certains ont pris la route des stations de ski.
Oui, on sait qu'il n'y a pas de remontée mécanique cette année, mais ça n'a pas rebuté les amoureux de la montagne. Dans certaines stations, les taux de fréquentation avoisinent les 60%. En station, le ski alpin ne fait pas tout, Carole Ferry.
Pas de remontée mécanique, certes, mais les petits ont bien droit au tapis roulant. Il y a donc des cours de ski cette année jusqu'à l'Ourson, voire jusqu'à la deuxième étoile quand la piste le permet. Gros succès pour le ski de fond qui a déjà fait son chiffre d'affaires de l'an dernier. En plein boom également le ski de randonnée. On monte en peau de phoque et on redescend à ski. La plupart des stations ont d'ailleurs transformé leur piste pour l'occasion avec un fléchage pour la montée et une descente sur piste sécurisée. Plus original encore, le ski joring. Les explications de Jacques Filliette-Rose, l'un des pionniers de cette pratique.
C'est du ski tracté derrière un cheval. Ça peut être super calme au pas, au trot un peu plus rapide et puis alors beaucoup plus rapide au galop. La clientèle que l'on a d'habitude, c'est une clientèle cavalière skieuse, alors que cette année, c'est une clientèle qui ne connaissent pas du tout le cheval et qui découvrent justement le ski derrière un cheval.
Une première, par exemple, pour Margot.
C'est top, c'est de nouvelles sensations et puis quand il se met au galop, c'est impressionnant. On a l'impression qu'au départ, ça avance pas forcément et en fait, une fois que ça part, c'est incroyable. Et je conseille de mettre deux sous-couches de pantalon parce que la neige envoyée derrière fouette un peu.
Certaines stations proposent également de monter les skieurs en dameuse ou en motoneige.
Voilà, deux sous-couches pour le ski de Jérine, Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Marguerite, on passe au sport avec l'un des grands rendez-vous de la matinée, la finale masculine de l'Open d'Australie.
Oui, ce sera à 9h30 tout à l'heure. Novak Djokovic contre Daniil Medvedev, numéro 1 contre numéro 4 mondial pour ce tout premier grand chelem de l'année, Corinne Boulou.
Novak Djokovic est dans son jardin à Melbourne, un peu comme Nadal à Roland-Garros et Federer à Wimbledon. Le Serbe vise un 9e titre en Australie et n'a jamais perdu une finale sur la Rod Laver Arena. Malgré une alerte touchée aux abdominaux lors du 3e tour, Novak Djokovic a prouvé depuis qu'il avait retrouvé ses moyens physiques. Et il aura besoin d'être à 100% face à Daniil Medvedev, de presque 10 ans son cadet, qui lui est sur une pente ascendante depuis sa victoire à Bercy, au Masters de Londres et en finale de l'ATP Cup. Le plus francophone des joueurs russes reste méfiant.
C'est lui le favori, il a joué 8 fois, il n'a perdu jamais ici. Donc. Après, moi, je prends le tennis différemment. Pour moi, c'est 50-50, il y a deux joueurs qui restent. Toujours finale de Grand Chelem, c'est deux joueurs qui étaient forts pendant les deux semaines. Et pour battre Novak, un des meilleurs joueurs de l'histoire de tennis, surtout ici à Melbourne, il faut être au top dans le tennis, physiquement et mentalement.
Medvedev, à 25 ans, dispute sa deuxième finale en Grand Chelem. Il fait partie de cette nouvelle génération appelée à prendre le relais au sommet du tennis mondial. En attendant, Djokovic a l'occasion de remporter un 18e titre du Grand Chelem et se rapprocher ainsi des 20 titres records de Federer et Nadal.
Corinne Boulou, et puis notez qu'hier chez les femmes, c'est la japonaise Naomi Osaka qui s'est imposée en football. Deux matchs nuls à vous signaler hier. Un partout entre Saint-Etienne et Reims. Même score entre Nantes et Marseille. C'est la 26e journée de Ligue 1. Tout à l'heure, on suivra 7 rencontres, dont le choc entre PSG et Monaco. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 21h. Et puis n'oublions pas les sports d'hiver, on en parlait il y a un instant. Ce sont les championnats du monde de ski alpin. Clément Noël et Alexis Pinturault sont attendus sur le slalom. Mondiaux de biathlon également avec les dernières épreuves. Aujourd'hui, ce sont les mass start chez les hommes et chez les femmes.
Mais c'est parfait, c'est complet.
Voilà pour le programme complet.
C'était le journal de Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.